2, 1. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 405. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on avait déjà abordé pour tous les anciens qui ont de la mémoire, il y a de ça longtemps dans Learning Business, où on avait abordé justement le gross hacking. Avec l'idée de se dire, c'est comment est-ce que lorsqu'on a des formations, quand on a un organisme de formation, soit indépendant, soit intégré des entreprises, bah, comment est-ce qu'on développe une reconnaissance sociale par l'argent? Comment est-ce qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires? Ce qui est une problématique qu'on voit de plus en plus, même pour des universités ou des écoles internes qui s'ouvrent dans cette démarche-là. Et donc, on a fait revenir une personne qu'on avait bien aimée, qui à l'époque se lançait dans le gross hacking, et donc qui aujourd'hui va nous montrer un peu quels sont les leviers de croissance qu'on peut avoir en disant quelle peut être ma stratégie. J'ai des choses à dire, maintenant comment je mets ces choses sur le marché? Et pour ça, on a choisi Thomas Le Sénéchal, qui est expert du gross hacking. Bonjour Thomas.
Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation.
Thomas Le Sénéchal, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le gross hacking pour tous ceux qui n'étaient pas là? Et ils sont quelques-uns quand même.
Eh bien, écoute, le gross hacking, c'est simplement un ensemble de techniques qui permet de générer de la croissance et on ne s'y prend pas n'importe comment. On va s'y prendre avec ce qu'on appelle des expérimentations. Donc, c'est qu'on va faire des tests structurés et ces expérimentations, ces tests structurés, on va les baser sur de la donnée. Donc, on va identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et pour ce qui fonctionne, on va le répliquer et on va tenter de le répliquer à plus grande échelle possible pour générer de la croissance.
D'accord. Le gross hacking, c'est fait que pour le numérique?
Non, ça marche aussi pour des commerces physiques. Ça
D'accord.
marche pour tout type d'activité.
D'accord, très bien. Et donc, si on devait se dire, moi, on est responsable d'une unité, d'une business unit, et dans ces cas-là, on vient d'être nommé, il y a une activité qui est un peu traditionnelle, et comment j'organise ma stratégie à 2-3 ans?
Ok, bah, le premier élément qui va être ultra important, c'est la partie offre. Ça va être très compliqué de faire du gross hacking avec une offre qui n'est pas bien positionnée. Donc le premier élément sur lequel on va travailler, ça va être le positionnement de l'offre. Moi, ce que je recommande, c'est notamment d'être le plus spécifique possible en termes d'offres et de commencer petit, pas avoir 36 offres, mais avoir plusieurs offres qui sont bien positionnées. Et une offre bien positionnée, ça va être un persona bien défini, à qui est-ce que je vais adresser cette offre. Ça va être par ailleurs une promesse,
Alors le
quel va être
persona,
l'effet de mon
est-ce
offre?
que tu as un exemple de
Ouais.
persona pour ceux qui ne connaissent pas le terme qui est
Oui,
marketing?
alors un persona, c'est un client type. Donc c'est par exemple une entreprise de service qui opérerait en B2B. Ça, c'est un type
D'accord.
de persona, par exemple.
Très bien. Et donc, une fois qu'on a défini son persona, donc on sait quel est notre client type, la cible qu'on a identifiée, c'est pas pour ça qu'on est positionné pour l'instant.
Non, tout à fait. Alors, si on travaille plus en détail sur le persona, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est très précisément quels sont ses problèmes. On peut faire des analyses qualitatives ou quantitatives, donc on peut simplement échanger avec eux, faire des interviews ou faire des sondages. On va essayer de comprendre très précisément quel est leur problème, premier point. On va essayer par ailleurs de comprendre quelles sont les solutions qu'ils ont testées et qui n'ont pas fonctionné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fausses solutions. On va essayer de comprendre par ailleurs quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés. S'ils ont essayé des choses, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fonctionné? Et on va aussi essayer de comprendre quel est leur désir. Donc par exemple, je suis un dirigeant d'organisme de formation. Mon problème, c'est la conformité administrative. Ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est une démarche qualité. L'obstacle que j'ai rencontré, c'est mon manque d'expertise et mon désir, c'est de piloter sereinement l'activité de mon organisme de formation et d'être en conformité pour pouvoir développer et bénéficier des financements potentiellement.
D'accord. Alors, avant de rentrer sur la proposition d'un produit, bah, beaucoup de structures n'ont pas identifié leurs besoins ou ont mal identifié en disant bah, ça ne marche pas parce qu'un tel est nul. Et donc, en fait, alors qu'en fait, c'est peut-être autre chose. Donc, ce qui est le déclaratif n'est pas forcément le prescrit n'est pas forcément la réalité.
Tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'il faut revenir aux fondamentaux et qu'il faut vraiment analyser ce persona et pas pousser sur le marché une offre en se disant c'est sûr, ça va marcher, ça fonctionne. Il faut être méthodique et commencer par analyser. Donc on peut commencer par ce que je mentionnais, c'était des sondages qui peuvent être qualitatifs. Donc c'est des interviews. On va chercher 10-15 personnes à interviewer. C'est des interviews qui peuvent durer 20-30 minutes maximum. Ça va pas être très long et on va poser ces questions. Toi, Stéphane, en tant que dirigeant, quelles sont les problématiques que tu rencontres? et on va dérouler l'interview. Et ce qui est intéressant, c'est que par la même action, on va aussi identifier des prospects. Si moi, je cible les gens comme Stéphane, si j'ai déjà eu une interaction avec lui, bah, ça va être l'occasion de lui dire à un moment, écoute, tu m'avais partagé tes problèmes et aujourd'hui, j'ai développé une solution. Est-ce qu'elle peut être pertinente pour toi? Donc en fait, je fais d'une pierre deux coups dans la mesure où je vais avoir une meilleure connaissance de mes prospects et je vais aussi prospecter en même temps. Donc ça, c'est ultra intéressant.
Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que dans le B2B, les responsables de formation sont hyper sollicités. Donc, ils refusent de rencontrer les gens parce que sinon, ils passeraient leur vie à répondre à des sondages ou à des enquêtes ou des fausses enquêtes, etc. Comment est-ce qu'on fait pour les toucher?
Alors, premier élément, c'est d'utiliser son réseau. Il est possible par ricochet qu'on puisse être en capacité de se connecter avec des personnes. Et il y a un élément qui est ultra important, c'est que les gens qui font un métier, il arrive que ces gens aiment bien leur métier et ils aiment bien en parler. Je pense que c'est assez important de comprendre que ça va être pertinent pour eux d'échanger. Et puis, bon, ils vont peut-être aussi apprendre des choses. Et après, on peut simplement aller faire de la prospection. On peut utiliser les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple. Bon, il faut avoir en tête que si on en veut 15, on n'a pas en contacté 15, on a en contacté plus, parce qu'on va potentiellement avoir de la complexité pour aller les chercher. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on en a un, deux, trois, bon, on peut leur demander s'ils ont quelqu'un à recommander qu'on pourrait aussi interviewer. Donc, procéder par recommandation pour pouvoir aller être en capacité de faire plus d'interviews.
Et donc, ça permet une accroche qui est beaucoup moins sauvage
Tout à fait.
que dire ça. Et sur LinkedIn, comment est-ce qu'on fait? On utilise le secteur, le métier? C'est suffisant?
Ouais, les intitulés de poste, ça c'est pertinent. On va pouvoir utiliser et après c'est par les messages perso. Donc simplement préciser bonjour Stéphane, je suis en cours de création d'une offre et j'aimerais échanger avec vous pour vous poser quelques questions dans le but de la conception de l'offre. Je vais consolider les résultats et vous les partager. Par exemple, ça peut être intéressant pour qu'il ait au moins un petit intérêt à être là.
Oui, bien sûr.
Rien à préparer, on précise bien. Et par ailleurs, ça prendra 15 minutes. Du coup, ça fait un petit peu moins de freins entre guillemets potentiels pour l'interlocuteur pour pouvoir aller réaliser cette interview.
Donc, on a fait son analyse, on sait que le produit répond à un besoin, à une problématique. Donc, ça, c'est important. Une fois qu'on a ça, ben, comment est-ce qu'on la propose?
Ben, on va la décliner avec une promesse. La promesse, c'est en gros qu'est-ce que ça va permettre de faire, d'utiliser cette solution. Donc, par exemple, je vais commercialiser des formations en prise de parole. Ma promesse, ça pourrait être, par exemple, on te rend pas juste plus à l'aise à l'oral, on te rend impossible à ignorer. Donc ça, c'est par exemple un exemple de promesse. Et je vais donner les bénéfices. Bah, ça va te rendre plus confiant, ça va te rendre plus convaincant, ça va te donner plus d'opportunités. Donc une fois qu'on a la promesse et les bénéfices, on a déjà des éléments qui sont pertinents pour positionner une offre. Ensuite, on va aussi jouer sur d'autres éléments. On va jouer notamment sur la preuve sociale, si on a des références. Le nombre de personnes qu'on a pu accompagner, des logos de sociétés, qui sont des éléments qui vont être intéressants. Et on va aussi jouer sur bah, le prix, qui est une variable qui est importante et qui va du coup être pertinente d'itérer aussi, de faire des tests sur le prix pour pouvoir être en capacité de vendre au bon prix.
Très bien. Donc là, on a constitué son produit au sens large du terme.
À fait.
On déclenche du mailing, des choses comme ça.
Alors, souvent, dans un premier temps, les organismes de formation, pour se développer, ou les structures de manière globale, elles vont avoir une première phase de développement où elles vont utiliser leur réseau et le bouche à oreille. L'enjeu du réseau, ça va être par exemple d'aller solliciter des anciennes entreprises avec lesquelles on a collaboré, des clients existants, son second cercle. Et le bouche à oreille, ça va être d'obtenir des recommandations par des tiers. Le problème, c'est que c'est utile au début, mais ça ne va pas permettre de se développer dans la durée sereinement parce que c'est difficilement prévisible. Très concrètement, on ne sait pas le mois prochain combien notre réseau va nous ramener de contacts et on ne sait pas quand les recommandations vont tomber et quelles vont être leur nature. Est-ce que ça va être un petit contrat? Est-ce que ça va être un gros contrat? Donc c'est pertinent évidemment de développer son réseau et de compter sur le bouche à oreille et les recommandations, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut passer à l'échelle une activité. Et encore une fois, c'est pertinent au début.
Alors, il y en a beaucoup qui utilisent que ça,
Ouais,
c'est-à-dire
tout à
qui
fait.
s'inscrivent sur des associations. Alors, ou si c'est la cible, c'est des dirigeants, etc. Ça peut être des DRH, enfin, suivant la cible qui est la sienne. ils rencontrent des DRH, s'ils sont plutôt sympathiques, etc., ben finalement, ils s'estiment. Et à la fin, quand il y a une problématique, ben on choisit quelqu'un qu'on connaît, donc qui est rassurant en soi, plutôt que quelqu'un qui est un inconnu et que le risque de se tromper.
Bien sûr.
Donc, c'est, voilà.
Alors ça a évidemment du sens que d'intégrer des associations dirigeants. Ça permet de développer son réseau, d'échanger entre pairs, de faire connaître son offre et in fine, si possible, de signer des clients. Ça peut être, je sais pas, le réseau Entreprendre, ça peut être la FEN aussi, par exemple. L'idée, c'est que en effet, c'est pertinent, mais si on base toute sa stratégie là-dessus, bah, il y a possibilité que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est des efforts qui vont payer, qui d'ailleurs payent dans la durée. À très court terme, si on compte que sur les associations, bah, le risque, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc moi, ce que je vais recommander, c'est de mettre en place d'autres actions.
Très bien. Donc, on va voir les autres actions. Quand on rencontre les gens, il y a un sujet qu'on a abordé, mais qu'on a effleuré. C'est-à-dire, on a une formation qui répond à des problèmes. Mais si, par exemple, moi, je dis le bien-être est un vrai problème dans beaucoup d'entreprises, la surcharge cognitive, enfin, il y a plein d'accroches. Quand on voit la flopée de gens qui se positionnent dessus, il n'y a pas un positionnement au sens marketing. Comment je fais pour me différencier en disant je suis meilleur que les autres, pour le dire simplement?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question parce que souvent, ce que je vois sur les organismes de formation au début, c'est qu'ils sont généralistes et qu'ils ne sont pas bien positionnés. Généralistes dans la dimension où ils vont former sur plusieurs thématiques et du coup, ça va être difficile de les identifier sur une thématique spécifique. Tu regardes parfois des organismes de formation, ils forment en management, ils vont former en langue. Tu te dis, mais OK, en fait, ils s'inspirent des plus gros, les Segos, Demos et compagnie, en se disant, eux, ils sont sur plein de thématiques et du coup, bah, peu importe la thématique qu'ils sont capables de répondre, il faut que je fasse pareil. Bah non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, tu n'es pas identifié sur une thématique spécifique. Par ailleurs, ça coûte de maintenir un catalogue de formation avec plusieurs formations, et en budget marketing, ça va coûter plus cher. Donc moi, ce que je suggère, c'est de se positionner spécifiquement sur une thématique. Donc par exemple, comme tu le mentionnes, le bien-être, et par ailleurs, au sein de cette thématique, être capable d'être en plus dans une niche. Donc ça peut être le bien-être pour les acteurs je sais pas, de la transition énergétique. Ça peut être, moi je me spécialise dans le bien-être pour les sociétés du ferroviaire. Ces sociétés-là, elles sont soumises au stress, il n'y a pas de démarche qui est entamée pour elles. Et du coup, parce que j'ai déjà eu des références là-dedans, c'est là-dessus que je vais me positionner. Mais en tout cas, plus je vais être sur une niche, plus je vais être identifié sur un secteur et potentiellement enfin, une thématique et un secteur. Plus je vais être différenciant et plus on va venir me chercher spécifiquement sur une problématique.
Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que finalement on se différencie sur 20% de son chiffre d'affaires et que le reste on fait comme d'habitude parce que souvent ça amène d'autres éléments. Donc finalement la différenciation c'est la porte d'entrée et derrière on fait du généraliste. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée de 20-80 chiffre d'affaires?
Bah écoute, ça peut être intéressant. Après, il faut avoir de la profondeur de catalogue, c'est-à-dire qu'il faut avoir d'autres formations ou d'autres sujets sur lesquels former. Mais en fait, potentiellement, je pense que sur les spécificités des organismes de formation, on peut devenir un acteur qui prend des parts de marché au plus gros en étant sur une seule thématique et en étant bien positionné. Parce que les plus gros organismes de formation, aujourd'hui, ils perdent des parts de marché face à des plus petits organismes de formation qui sont des spécialistes.
Exactement, parce que les gros ont un problème d'harmonisation, c'est-à-dire d'avoir la même qualité tout le temps, puisqu'ils font tourner beaucoup les intervenants, mais le gros avantage qu'ils ont, bah, c'est que tout simplement, ils sont généralistes. Donc on est sûr de trouver chez ces gosses, par exemple, de retrouver à peu près tout ce qu'on cherche, alors que finalement, quand on a la personne qu'on aime bien, parce qu'elle connaît bien le secteur, etc., bah, c'est plus rare, et puis c'est plus limité en termes de... Mais ça
Tout à
fait une
fait.
grosse différence. Donc, tu as
Je suis
raison,
d'accord.
quand on est petit, on peut tout à fait concurrencer les gros, à condition de ne pas vouloir faire comme les gros.
C'est vrai.
Donc ça, c'est bien. Donc, ça nous permet. Donc, il faut choisir. Et ça, c'est important, parce que souvent, les gens se disent, je peux faire plein de choses, que tu disais très justement. Mais là, il faut choisir en disant, ça, je trouve que c'est porteur, ou je m'y retrouve, ce qui peut être une façon de choisir aussi. Et dans ces cas-là, de se dire, ben, j'ai envie de porter ça, de communiquer, de nourrir les blogs, pour dire, j'ai une légitimité, une reconnaissance sociale, j'écris des articles. Tout simplement sur LinkedIn. Et donc, ça permet de dire, bah voilà, ces articles-là, petit à petit, on me suit. Et c'est peut-être dans ces clients-là, mais même si ce n'est pas dans ces clients-là, bah, les gens voient, en regardant ma page LinkedIn, par exemple, que finalement, j'ai l'air de m'y connaître dans le sujet.
Tout à fait.
Donc ça, effectivement, on parlait, la majeure partie, donc on parlait justement d'aller construire du relationnel, et tu mettais ton doute sur le relationnel, d'autres insistent énormément, les ingénieurs d'affaires, par exemple, n'insistent que sur du relationnel, avec les techniques de chasse, mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont très classiques et très conventionnels, très 20e siècle, qui sont les appels d'offres.
Tout à fait. Ouais, les appels d'offres, c'est vrai que ce n'est pas toujours le premier réflexe qu'on va avoir. Pour autant, ces appels d'offres, ça peut permettre d'aller générer des marchés qui sont intéressants en termes de taille. Par ailleurs, ils sont facilement trouvables lorsqu'on connaît les bons sites. Ça peut être les sites d'Adopco. Et puis, il y a d'autres portails, évidemment, qui permettent d'y parvenir. Et il faut évidemment bien s'organiser pour y répondre et parfois trouver des partenaires pour pouvoir être mieux organisé par rapport à la taille de l'appel d'offres, mais il est tout à fait possible de gagner des appels d'offres en étant positionné sur des thématiques spécifiques et en ayant une taille qui est relativement petite et d'aller chercher des marchés à plusieurs centaines de milliers d'euros auprès de ces appels d'offres. Ouais.
Exactement. Donc ça veut dire que il y a aussi comme approche, t'aimes bien les réseaux sociaux. Alors ça, c'est pas commun pour les organismes de formation. Donc les réseaux sociaux, c'est du B2C. Alors est-ce que c'est juste pour les organismes qui font de l'inter, ou est-ce que tout le monde peut profiter des réseaux sociaux?
Alors, ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas uniquement du B2C dans la mesure où les réseaux sociaux, ce sont des humains qui sont dessus. Ici, si on prend par exemple Meta, donc Facebook et Instagram, c'est plus de 30 millions d'utilisateurs en France. Avec des gens qui sont très actifs et qui vont y passer beaucoup de temps. Donc, on va aussi pouvoir utiliser notamment la publicité et les posts organiques, donc sans payer, sur les réseaux sociaux pour aller développer son audience et obtenir des résultats. Donc, ça va marcher en inter comme en intra. En revanche, il faut mettre en place la bonne stratégie et surtout avoir les bons messages parce que d'un poste à l'autre, on peut totalement tomber à côté. Mais en tout cas, il faut s'adresser directement à sa cible. Moi, j'ai des clients avec Hyperforma, la société que je dirige, qui commercialisent des formations en management, qui s'adressent à des dirigeants et qui font de la publicité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Simplement, on a une bonne analyse de leur avatar. Ils ont des offres qui sont bien positionnées et surtout, on va avoir des messages qui leur parlent directement. Si tu es manager et qu'aujourd'hui tu ressens telle frustration, alors plat, plat, plat. Je sais que je parle directement au manager. Donc il faut être très pertinent sur les messages et aussi il faut itérer, tester pas mal de choses pour pouvoir trouver ce qui fonctionne. Et là, on revient sur cette notion d'expérimentation avec des tests structurés qu'on retrouve dans le gros hacking et qui va permettre à terme d'obtenir des résultats, mais par itération. Donc ça veut dire qu'on va essayer plein de choses et voir ce qui fonctionne.
Est-ce que finalement, alors quand on essaye, qu'on se lance, c'est facile parce qu'il n'y a pas d'historique, mais quand on a une historique et une légitimité, ou en tout cas une reconnaissance, quelle qu'elle soit, on a eu des clients pour le dire différemment, comment est-ce qu'on fait évoluer son offre? Parce qu'à force de partir un peu dans tous les sens, bah, les gens qui nous regardent de loin se disent, on est brouillon, c'est le bazar.
Bah, je pense qu'il faut y aller petit à petit. C'est pas faire des 360 d'un coup et aller sur des thématiques connexes ou aller sur des besoins des prospects qui sont identifiés sur des thématiques connexes. Si on est sur la prise de parole, ce qui va avec, c'est la confiance en soi. Donc on peut former sur les deux thématiques. Mais si on fait de la prise de parole et qu'ensuite on fait des formations secrétariat, bon, on ne va pas tout à fait comprendre ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il faut y aller vraiment petit à petit et développer brique par brique et aller vraiment sur des thématiques connexes pour pouvoir avoir des opportunités. Et si on veut se développer sur d'autres secteurs spécifiques, on peut aussi avoir d'autres marques. C'est ce que font les plus gros organismes de formation qui ont des marques spécifiques sur, je sais pas, le journalisme ou autre et qui vont décliner les marques. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller petit à petit pour obtenir des résultats et bien être identifié parce que sinon, en effet, comme tu le dis, au bout d'un moment, on se dit, ils font tout n'importe quoi, on ne comprend pas quoi.
Exactement. Est-ce que finalement quelqu'un qui est tout seul ou ils sont deux dans un organisme de formation, c'est quand même la majorité des organismes de formation en France, il doit prendre combien de temps pour s'occuper de ça?
Bah, je pense que l'offre, ça reste quand même le cœur du sujet. Donc, il faut régulièrement essayer de se rendre compte de est-ce qu'on est bien positionné, est-ce qu'on reste concurrentiel. Là, notamment, je pense en ce moment, tu as pas mal d'actualités sur les régulations du CPF, par exemple, avec le plafonnement. Bah, c'est de se dire, est-ce qu'on ne ferait pas un peu plus de B2B si on faisait du B2C, par exemple. Et l'idée, ça va être aussi de pouvoir adapter sa stratégie aux évolutions du marché. Et ça passe par de la veille, et ça passe par le fait de rester un peu au pouls de son marché. Sinon, on a vite fait de se faire prendre de front par la concurrence, quoi. Mais en tout cas, il faut que ça reste un sujet de fond, de se demander si en ce moment on est bien positionné, est-ce qu'on reste compétitif. Il faut que ça reste une tâche de fond, même si ça ne nous prend pas 4 jours sur 5, quoi.
Ça veut dire que tu dis, d'ailleurs, tu parles de Facebook et d'Instagram, tu n'as pas démarré par LinkedIn.
Alors.
Et derrière, ben, pourquoi pas TikTok, dont il y a des jeunes qui sont en activité avec des possibilités, ou Instagram, bien évidemment. Il faut être partout, donc c'est chronophage.
Ça va dépendre de son audience, de où est présente son audience. Donc là, on revient un petit peu à cette notion de persona. On va essayer de comprendre où est-ce qu'elle est présente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être mieux vaut être très bien positionné sur une plateforme que d'être brouillon sur toutes les plateformes. Parce que ces plateformes ont des formats qui sont spécifiques, elles vont nécessiter des stratégies qui sont spécifiques. Et du coup, il vaut mieux concentrer ses efforts sur un seul réseau que d'être sur 5 plateformes en disant nous on est sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Bon, en fait, oui, mais tu as 30 followers à chaque, enfin 30 personnes qui te suivent à chaque endroit. Donc je pense qu'il va falloir concentrer ses efforts et encore une fois, uniquement là où est présente son audience. Donc on revient à l'analyse où est-ce qu'ils sont ces gens-là et qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu en ligne, quoi.
Et donc toi, ce qui est contre-intuitif pour les auditeurs, j'imagine, t'as pas choisi LinkedIn comme plateforme de référence. C'est pas celle que tu as citée en premier.
Alors, LinkedIn, on peut l'utiliser en organique, en faisant des posts, en allant commenter l'actualité des différentes personnes de son réseau. Pourquoi? Parce que ça va notamment permettre de prendre position sur des évolutions de son marché, de partager des ressources qui sont pertinentes pour son audience, de prospecter via les messages pour promouvoir ses services. Mais si on parle de la publicité, aujourd'hui, les publicités sur LinkedIn sont vraiment chères. Et ce n'est pas la régie publicitaire la plus performante en termes de ciblage et en termes de plateforme de publicité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant. On va retrouver potentiellement des profils relativement similaires, mais qui sont dans une autre type de consommation sur Facebook et sur Instagram, et on va pouvoir les toucher avec de la publicité à des coûts qui sont bien moindres. C'est pour ça que j'ai plutôt le réflexe, quand il s'agit de publicité, de penser d'abord à Facebook et Instagram plutôt que de penser direct à LinkedIn, parce que pour ceux qui ont fait de la pub sur LinkedIn, ils savent que les coûts pour 1000 impressions, donc c'est ce qu'on regarde dans la publicité, combien ça coûte d'afficher son message à 1000 personnes, c'est 2, 3, 4 fois plus important sur LinkedIn que ça ne l'est sur Meta, Facebook et Instagram.
Alors, ça coûte combien?
Ouais, ça dépend des secteurs, entre 20 et 40 euros
D'accord,
sur
pour avoir
Meta.
1000 impressions sur Meta. Donc, c'est pas
Oui, tout à fait.
énorme.
Ouais,
Et
alors sur
avec
LinkedIn,
1000 impressions. Voilà.
c'est plutôt 80, 100.
Donc,
C'est
déjà,
très important.
c'est plus. Mais après, c'est le taux de conversion.
Ouais, tout à fait.
Est-ce qu'avec 1000, on fait quelque chose?
Alors ça dépend de la qualité des publicités et de ce qu'il y a derrière. La publicité, c'est la première étape et derrière, il y a ce qu'on appelle le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est ce qui va permettre de transformer un visiteur en prospect, un prospect en rendez-vous et un rendez-vous en client. Donc ce qu'on va plutôt travailler, c'est les différentes étapes qui permettent de faire passer un inconnu au stade de prospect, puis au stade de rendez-vous, puis au stade de client, plutôt que uniquement la publicité. Et ce qu'on va regarder, in fine, c'est plutôt combien ça nous coûte d'avoir un rendez-vous et combien ça nous coûte d'avoir un client, que combien ça nous coûte d'avoir un clic ou d'avoir un affichage de la publicité, par exemple.
D'accord. Et donc, combien ça coûte d'avoir, quand on travaille sur Facebook, d'avoir un client, un rendez-vous client?
Alors, les rendez-vous, ça va dépendre des secteurs, mais c'est entre 100 et 300 euros environ. Parfois, tu as des rendez-vous qui sont moins chers, mais il faut faire attention parce que ce qu'on veut, c'est un rendez-vous honoré et un rendez-vous qualifié. Il y a une grosse problématique qu'on appelle, alors en anglais, on dit no-show pour les rendez-vous, c'est les gens qui ne se présentent pas. Et ça, c'est une grosse problématique. Et ce qu'on va vouloir, c'est de 1, d'avoir des rendez-vous qui sont honorés. On va payer uniquement des rendez-vous où il y a des gens qui sont présents. Et on voit parfois des sociétés où c'est sous-optimisé, où on a jusqu'à 50% de taux de non-présence, no-show, en rendez-vous. Et donc là, en fait, tu es juste en train de faire perdre du temps à tes commerciaux et de griller du budget pour rien. Et ce qu'on va essayer aussi, c'est d'avoir des rendez-vous qualifiés. Donc ces rendez-vous qualifiés, ils présupposent d'avoir une bonne publicité, potentiellement d'en disqualifier. Donc on va collecter différentes informations. Donc par exemple, si toi, tu prends rendez-vous avec moi, je vais te demander c'est quoi ta problématique. Je vais te demander quel chiffre d'affaires tu fais. Moi, je travaille par exemple qu'avec des organismes de formation qui ont déjà un produit qui est lancé sur le marché. Donc, si tu fais 0 euros de chiffre d'affaires, je ne vais pas être la personne la plus pertinente pour t'aider. Et du coup, on va payer plutôt évidemment pour des rendez-vous qui sont les plus qualifiés possibles. Donc il ne faut pas hésiter à monter à 200 ou 300 euros pour avoir des bons rendez-vous, plutôt que de se targuer d'avoir des rendez-vous à 50 euros, mais d'avoir que des rendez-vous qui sont totalement à côté de la plaque, de touristes, entre guillemets, quoi. Et après, l'objectif, c'est d'en transformer entre 10 et 20% en clients. Tu peux en transformer plus si c'est du bouche à oreille ou s'il y a de la recommandation, mais à l'échelle, faire plus de 20% de taux de transformation, c'est pas simple. On va dire qu'on va viser 20-25%, mais dans les grandes lignes, 100% de tes rendez-vous ne deviendront pas des clients, c'est impossible.
Bien sûr. Oui. Donc ça prend du temps, ça développe un argumentaire. Est-ce qu'il y a d'autres leviers de croissance qu'on n'aurait pas abordés?
Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'être fort sur un canal organique et sur un canal payant. Un canal organique, ça va être par exemple les réseaux sociaux. Et un canal payant, ça peut être Meta, mais ça peut aussi être Google. On n'en a pas parlé.
D'accord.
Google, ça va être là où, dans un premier temps, tu as ce qu'on appelle le trafic le plus intentionniste. Donc, c'est des gens qui ont émis des recherches. Donc, par exemple, si je tape formation prise de parole, pour en revenir aux formations prise de parole, je sais que c'est des gens qui cherchent des formations prise de parole. Et moi, si je paye pour me positionner dans les résultats, peut-être que ça va me coûter plusieurs euros du clic, mais je sais que c'est des gens qui cherchent de la formation en prise de parole. Quand on est sur des publicités sur Meta, c'est des gens qui sont généralement un petit peu plus froids en termes d'intérêt. Donc ça va être potentiellement des clients qui vont être un petit peu plus chers et un peu plus durs à transformer. Mais c'est des choses qui peuvent être faites. Ce qu'on va pouvoir faire, on n'en a pas trop parlé, c'est aussi de la prospection. Cette prospection, elle peut être en partie automatisée avec des outils qui vont permettre d'automatiser les prises de contact, qui vont permettre d'automatiser l'envoi des messages. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les plateformes sont de plus en plus restrictives sur le nombre de messages envoyés. Et pareil, sur les emails, ils atterrissent de moins en moins dans les boîtes mail. Néanmoins, c'est des choses qu'on peut développer. Et après, il faut pas aussi oublier de développer la recommandation avec ses clients existants. De dire, est-ce que vous connaissez des clients qui ont des mêmes problématiques? Est-ce que je peux vous rétrocéder une commission si vous me permettez d'en signer, qu'ils aient un intérêt à le faire? Et ça, c'est des éléments qui vont être pertinents.
Donc ça, c'est alors il y a beaucoup de gens qui sont en poste, donc qui sont en entreprise, donc qui peuvent pas avoir de rétrocommission. Mais c'est vrai que même si on leur demande si le contact s'est bien passé, si eux connaissent des gens, puisqu'ils connaissent aussi leur secteur, parce qu'ils sont en posture, dans ces cas-là, bah, ils ont des gens qui peuvent être intéressants et ça permet aussi d'aborder les nouveaux prospects avec la recommandation de quelqu'un, ce qui est beaucoup plus chaud que quand on y va à l'arrache.
Oui, tout à
Non?
fait. Et c'est tout à fait vrai. Et par ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et c'est nécessaire de le faire le plus tôt possible, c'est d'obtenir des témoignages et des avis. Des témoignages, ça peut être du coup des recommandations, ça peut être du texte. Aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est la vidéo et le plus long possible. Donc ça peut être des interviews clients qui durent 10-15 minutes où on va dire, OK, bah, c'était quoi la problématique que tu avais quand tu es venu nous rencontrer? Tu étais dans quelle situation? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place ensemble? Quels sont les résultats qu'on a pu obtenir? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à collaborer avec nous? Tu vois, ça c'est de l'or d'avoir des clients qui te recommandent et qui le font sur des formats assez longs. Et ce qu'on va essayer d'illustrer, c'est des transformations. Donc c'est le passage d'une situation initiale à un état désiré. Et le vecteur de la transformation, c'est l'offre. Donc on sait que l'offre est de qualité si la transformation a bien opéré, donc si les gens ont obtenu les résultats qu'ils espéraient. Et le deuxième élément dont je parlais, ce sont les avis, notamment sur Google ou sur Trustpilot, qui vont de plus en plus compter. Et je te donne un exemple, moi j'ai eu un prospect au téléphone récemment et j'aurais pu mieux faire ma découverte parce que j'ai appris au bout d'un quart d'heure qu'il me connaissait entre autres parce qu'il avait un ami à lui était un de mes clients.
Oui.
Ça change totalement là. Tu vois, une des premières questions que tu dois poser, c'est comment est-ce que vous m'avez connu? Là, je me suis dit, ça vient des pubs, donc c'est forcément quelqu'un qui ne me connaît pas. Et en fait, bah, il est venu par les pubs, en effet, mais il connaissait quelqu'un avec qui j'avais collaboré, et du coup, bah, il a un a priori positif. Et ça, faut pas hésiter à bien l'exploiter, à dire, bah, écoute, n'hésite pas à demander des retours sur notre collaboration à telle personne, parce que ça s'est bien passé, et du coup. Ça va être plus facile de finaliser la vente, évidemment.
Tu conseilles d'utiliser YouTube comme support parce qu'il y a beaucoup qui disent le podcast est intéressant pour plein de raisons, Donc, tu gérais quoi comme support pour faire ces rencontres?
Bon, alors pour faire les interviews, tu veux dire?
Oui, pour faire les interviews et donc pour positionner sa marque, bien évidemment.
Ouais, tout à fait. Oui, YouTube est pertinent pour faire les interviews. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien léché en termes de format, d'avoir une bonne qualité d'image, d'avoir du bon son. Ça, c'est important pour la perception de la marque, parce qu'évidemment, ça va transpirer à travers les contenus qu'on produit. Et après, ça peut être pertinent, si c'est une interview client spécifiquement, c'est YouTube, et de pouvoir mettre un lien sur son site. Et après, si c'est du podcast, bah, c'est le diffuser sur le plus de plateformes possible pour pouvoir avoir de la diffusion et d'avoir plus d'audience, quoi.
C'est d'autant plus un outil intéressant, que ce soit YouTube ou le podcasting, c'est que ça permet de rencontrer même des gens qu'on aime bien, et ça permet à des followers de nous suivre sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, et finalement de nous connaître. Et
Tout à
si on
fait.
interviewe quelqu'un qui est un professeur d'université qu'on a eu, qu'on aime bien, enfin, etc., dans le pire des cas, il dit non, ben on en prend un autre, mais petit à petit, on constitue sa couleur.
Tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, pour pouvoir effectuer une décision d'achat, les potentiels clients, ils ont besoin d'être exposés à des messages répétés, des messages sous plusieurs formats. Et par ailleurs, l'idée, c'est que bah, plus ils vont développer une relation de confiance, plus ils vont être en capacité de penser à vous lorsqu'ils auront un besoin spécifique. Bah, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas tout de suite. Et d'ailleurs, même quand on fait de la publicité, il faut avoir une démarche où on va éduquer et fidéliser les gens parce qu'on ne va pas collecter que des, enfin, on va pas générer que des prospects qui sont prêts à acheter tout de suite. On va potentiellement avoir des prospects qui sont un petit peu plus loin en termes de phase de décision d'achat. Et l'enjeu du contenu et de toute la stratégie éditoriale et de contenu qu'on met en place, ça va être de transformer petit à petit ces suspects en prospects. C'est ça qu'on dit généralement. Au début, c'est des visiteurs. On va les transformer en prospects, puis en rendez-vous, puis en clients. Ça va être ça la stratégie globale qu'on va mettre en place.
Et comment est-ce lorsqu'on a fait une accroche qui est plutôt réussie, comment est-ce qu'on fidélise l'accroche? C'est-à-dire qu'on arrive à garder un contact, on fait une newsletter, on fait.
Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on voit pas mal de professionnels qui sont uniquement sur les réseaux sociaux. La problématique des réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas votre audience, c'est l'audience des réseaux sociaux. Et avec les modifications de l'algorithme, la portée des publications, donc c'est le nombre de personnes qui voient nos publications versus le nombre de personnes qu'on a dans notre audience, il est tout à fait possible que si j'ai 1000 personnes qui me suivent, j'en ai seulement 20 ou 30 qui voient mon poste. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes veulent que vous fassiez de la publicité. Donc, par le passé, c'était évidemment bien meilleur. Et aujourd'hui, je me faisais la réflexion hier et aujourd'hui sur Facebook, un post sur trois sur mobile, c'est de la publicité. On descend son fil, un post sur trois, c'est de la publicité. Donc,
C'est énorme.
c'est trop d'ailleurs. On en perd vraiment la qualité du contenu. Moi, ce que je recommande, c'est de collecter des emails. Parce que lorsque vous collectez des emails, ça va être votre audience. C'est une audience qui vous appartient, sur laquelle vous avez la main et que vous pouvez solliciter par email avec encore aujourd'hui une bonne délivrabilité des emails. Les emails arrivent dans les boîtes mail quand c'est pas de la prospection. Les emails arrivent et vous allez pouvoir mobiliser la stratégie éditoriale que vous faites dans la durée pour pouvoir toucher de manière répétée cette audience. Et donc, ce que je recommande, c'est soit une newsletter avec une fréquence qui est définie, soit d'avoir des séquences. Dès qu'une personne rentre dans nos emails, on sait qu'on a 12 emails qui sont prédéfinis et qu'elle va recevoir sur un mois, 2 mois par exemple.
Très bien. On cite souvent, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir, quand on n'a pas une grosse, comment est-ce qu'on fait pour, on dit les lead magnets par exemple, pour faire venir les gens la première fois, pour qu'ils déposent leur mail et qu'ensuite on puisse envoyer la newsletter qu'on a préparée.
Ouais, alors là, on en revient du coup au persona. On va identifier une problématique qu'ils cherchent à résoudre. Et ce qu'on va faire, c'est créer un contenu qui leur permet de résoudre cette problématique. Et plus le contenu est activable, actionnable et leur permet de résoudre une petite problématique, ça ne va pas être un gros sujet, hein, plus ils vont pouvoir avoir la capacité à pouvoir transformer et laisser leurs coordonnées, quoi. Je prends un exemple. Hier, j'étais avec un de mes clients qui fait de la formation de formateur. Et du coup, on travaillait potentiellement sur les angles qu'il allait pouvoir mettre en place pour pouvoir faire un webinaire. Et ce qu'on avait choisi, c'était du coup de faire un retour d'expérience. Donc, son webinaire, l'idée, ça va être 7 conseils pour créer des formations impactantes et transformer sa pratique de formateur. Eh bien, si je suis formateur, ça peut vraiment m'intéresser. Je me dis qu'il y a une inversion du risque entre le fait de laisser mon email et mon prénom versus la valeur que je peux avoir. Donc, je vais le faire. Je vais laisser mon email et mon prénom et peut-être mes coordonnées. Et du coup, donc pour répondre synthétiquement à ta question, j'identifie mon persona et j'essaie de comprendre quel est son problème et comment je peux créer un petit contenu qui lui permet de résoudre un problème.
Exactement, en déposant son mail. Alors,
Exactement.
question qui est importante aujourd'hui, avec l'IA, finalement, l'IA peut être d'une aide extraordinaire. Il peut tout faire. Est-ce que
Tout
toi,
à
tu es
fait.
pour ou tu te dis non, pas plus que ça?
Alors moi, je pourrais, j'utilise beaucoup.
Ouais.
On parlait des appels d'offres. Notamment, l'IA va permettre de répondre aux appels d'offres, va permettre de répondre plus rapidement, d'avoir en quelques heures des éléments de travail de qualité. Par contre, évidemment, il faut savoir l'utiliser, la solliciter. Là, j'ai repéré un outil qui s'appelle Tengo, T-E-N-G-O, qui permet notamment de répondre à des appels d'offres. Donc ça, c'est typiquement un exemple d'utilisation de l'IA. Par contre, la question, c'est un peu genre, si tout le monde utilise l'outil pour répondre aux appels d'offres, à la fin, qui c'est qui gagne les appels d'offres, quoi? Donc il y a quand même un peu un sujet de comment on se différencie. Et peut-être que là, ce qu'on va se différen la manière dont on va se différencier, c'est dans la capacité à s'appuyer sur l'intelligence artificielle et à la modeler pour pouvoir obtenir des résultats qui sont pertinents et à la capacité à intégrer son approche spécifique et sa démarche dans une réponse à un appel d'offres, par exemple. C'est quoi notre parti pris et les capacités de présentation. Et après, l'intelligence artificielle peut aussi être utile sur la création de contenu. Après, le risque, c'est quand même que les contenus soient très marqués intelligence artificielle. Et je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais on commence à les reconnaître un petit peu parfois, les contenus qui sont rédigés par intelligence artificielle. Je pense que de plus en plus, les contenus rédigés par les humains vont émerger versus les contenus émergés par l'intelligence artificielle dans la mesure où ils vont être reconnaissables. Et ce qui est pertinent dans tous les cas, c'est la pensée unique que va avoir une personne et un petit peu ce qui va la démarquer en termes de richesse intellectuelle et l'angle spécifique qu'il va prendre, quoi, que ne trouvera pas forcément l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut lire, il faut se documenter, il faut faire de la veille. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer ça, quoi.
Est-ce que finalement, avec le RAG, en mettant, on a un peu d'historique, si on reste sur les appels d'offres, on a des appels d'offres sur lesquels on a déjà répondu avec de l'originalité, donc on a un positionnement qui est particulier, un verbe parfois qui est différent, ou des concepts. Finalement, l'IA, une fois qu'on l'entraîne, elle est capable de répondre à ma place.
Honnêtement, je ne l'ai jamais fait, moi, de faire de l'IA pour répondre à des appels d'offres. Donc, je ne pourrais pas te répondre à quel point est-ce qu'elle est capable de répondre à ta place, mais je pense qu'elle va beaucoup aider. Donc, je pense que dans tous les cas, il faut la prendre comme un outil que comme une fin en soi. Et il faut être capable, encore une fois, de se positionner et de collaborer avec plutôt que de dire je copie-colle. Enfin, si on prend le parallèle, ce serait comme des devoirs qui auraient été rendus par des étudiants et qui sont faits à 100% par l'IA. Le prof, quand il lit, il sait très bien que. Jordan qui est nul en maths, s'il obtient un 19 sur 20 en maths, il y a un souci, quoi. Enfin, maths, c'est pas le meilleur exemple, peut-être, mais une dissertation, il y a peut-être un petit souci, quoi. Mais je pense que faut réfléchir parce que peut-être que à terme, les réponses par IA aux appels d'offres vont être interdites ou tu vois, il y aura peut-être de la régulation là-dessus. Donc, il faut être vigilant, je pense, là-dessus. Ouais.
Ou alors, effectivement, elles seront autorisées et ce sera des appels d'offres qui corrigeront les appels d'offres. Et donc, le retraitement administratif que sont souvent les appels d'offres, finalement, seront mieux rédigés avec une qualité plus exigeante, mais finalement, l'homme sera moins présent. Donc, c'est ce qui a l'air de se dessiner aussi beaucoup. Quand on voit les étudiants qui sont des early adopteurs sur l'IA, ils ont très. Alors, au départ, avec toute la maladresse qui est du démarrage, mais ils ont très vite compris qu'il fallait laisser des fautes, et donc ils demandent à l'IA de laisser quelques fautes pour identifier que c'est un devoir qui est d'un étudiant, et ils donnent même l'année pour que ce ne soit pas un étudiant qui soit surqualifié ou surcoté, ce qui mettrait la puce à l'oreille au professeur.
C'est
Voilà.
vrai.
Donc il y a une vraie analyse, mais en tout cas ça permet, quand on fait des posts avec du visuel, etc., d'avoir une ligne iconographique, une ligne éditoriale, et il suffit de demander à la machine, quand on ne sait pas bien faire, bah, pose-moi toutes les questions pour que je construise mon positionnement. Et donc là, il va poser des questions, et puis en fonction des réponses que je vais pouvoir lui apporter, il va me proposer quelque chose que moi, je vais, avec mon esprit critique, dire c'est ça, c'est pas ça, mais finalement, je suis en posture, je suis challengé par l'IA. Et donc l'IA me permet d'être un consultant à plein temps, 24 heures sur 24, y compris la nuit, pour justement travailler à ma façon. Si c'est ma... Donc c'est intéressant, même si on ne sait pas jusqu'où c'est intéressant, parce que l'IA évolue beaucoup, mais en tout cas c'est indispensable de s'initier un peu à cette démarche.
Bien sûr. Oui, et puis il faut vraiment faire en sorte d'être le plus initié, de tester, de s'outiller, parce que c'est vraiment le futur, quoi. Là, on n'est plus sur est-ce que ça va se passer ou ça va pas se passer. Ça se passe déjà. Il faut faire en sorte de ne pas se faire avoir par l'IA, parce que ça peut à terme être difficile pour les emplois et compagnie, quoi.
Et c'est pour ça que sur l'IA, il y en a beaucoup qui font du copier-coller, parce que bien sûr, l'IA fait des choses extraordinaires. Donc au bout d'un moment, ben, on se surcharge, donc on bug, et dans ces cas-là, ben, on n'a plus le temps pour répondre à l'appel d'offres parce qu'il y a des deadlines, et donc on copie, alors qu'en fait, ça dégage du temps, et ce temps-là, on le choisit à en faire ce qu'on veut, mais c'est le temps aussi d'être critique, de réfléchir sur ce qu'on veut faire, sur les opportunités stratégiques. Et dans ces cas-là, les entrepreneurs de la formation, ben, ont des vrais leviers pédagogiques, économiques, avec des outils comme les LLM ou les assistants qui commençaient à émerger aussi.
Tout à fait, ouais. Très bon point.
Donc si tu avais, puisqu'on arrive à la fin, quelqu'un, deux, trois conseils à donner à quelqu'un qui se dit, ben, moi j'aimerais bien me lancer dans avoir une méthodologie qui soit être plus professionnelle sur ma façon de travailler mon chiffre d'affaires.
Premier élément, offre. Faire en sorte d'avoir une offre qui est bien positionnée. Se regarder dans un miroir et se dire, est-ce que mon offre, elle est vraiment concurrentielle? Est-ce que ma promesse, elle est vraiment alléchante? Est-ce qu'aujourd'hui, je comprends très spécifiquement pourquoi les gens achètent chez moi. Là-dessus, en termes de démarche, on peut faire des analyses sur pourquoi est-ce que les gens achètent chez moi et pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas chez moi. Donc, c'est vraiment aller demander à ses clients. Donc, premier sujet, positionnement de l'offre. Et deuxième sujet, c'est une fois qu'on a travaillé son réseau et qu'on a travaillé la recommandation, c'est pas hésiter à faire de la publicité et potentiellement se faire accompagner sur le sujet par des professionnels. Parce que souvent, ce que je vois, c'est des organismes de formation qui sont échaudés par la publicité. Et quand tu leur demandes s'ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils l'ont fait, ils ont zéro connaissance. Donc, évidemment que ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas la compétence. Ce qui va permettre de passer à l'échelle et de pouvoir obtenir des résultats, c'est de diffuser son message le plus possible. Et pour ça, la publicité est un bon moyen. Et troisième point, c'est pas oublier aussi qu'on est des humains et qu'on travaille avec des humains. Donc, comme tu le mentionnais, les associations, les événements professionnels, c'est aussi des choses qui sont pertinentes et qui vont permettre de se constituer un capital qui va pouvoir être un actif dans la durée.
Est-ce que tu conseillerais d'aller sur les salons professionnels, je pense Solutions RH, Learning Technology, sur Paris, où tu te dis, bon, pas plus que ça?
Je pense qu'il faut y aller en tant que visiteur pour voir un petit peu ce qui se fait sur le marché, c'est pertinent. Après, prendre un stand, ça a parfois du sens, mais il faut bien avoir en tête que ce qu'on cherche, c'est du retour sur investissement. C'est des stands qui sont parfois assez onéreux, donc on peut faire des tests. Par contre, il faut aussi mesurer les retours sur investissement à long terme, dans la mesure où parfois, ça va mettre 6 à 12 mois pour générer des résultats. Lorsque l'on fait des salons, il est possible que l'on signe un client qu'on a rencontré à un salon bien plus loin dans le temps que ce qu'on pensait. Et il faut viser un petit peu loin dans le temps. En tout cas, je pense que ce n'est pas la première priorité quand on développe son organisme de formation que d'aller prendre un stand à un salon, parce que c'est plutôt réservé, me semble-t-il, à des structures qui sont un peu plus solides et qui vont pouvoir mettre plusieurs milliers d'euros dans. Et il n'y a pas que la présence au salon, il y a le dispositif aussi sur le salon, combien on est de personnes, dans quoi est-ce qu'on investit, est-ce qu'on fait des goodies, etc. Mais y aller en visiteur, c'est
Ce
super
qui est
sympa.
en amont aussi du salon, parce qu'un
Tout à
salon, ça
fait.
se prépare. Et puis derrière, le fait dans le salon, être capable d'avoir de la visibilité. Souvent, une conférence est très intéressante, donc c'est un surcoût, bien sûr. Donc c'est un vrai budget. Après, c'est un ROI, hein, donc quand il y a du
Ouais,
retour,
tout à fait.
voilà, donc ça dépend. Et l'avantage, c'est que beaucoup de personnes viennent choisir, se font leur idée sur les salons, parce que ben, tout le monde est là, quoi. Donc,
Ouais,
est-ce que
tout à
toi,
fait.
tu as un exemple d'une entreprise qui serait partie de peu et qui finalement serait allée très haut? Pour être un peu une incentive pour dire que tu crois en ce que tu dis.
Ouais, tout à fait. Y a une boîte que j'aime bien et dont j'aime bien les valeurs qui s'appelle Live Mentor, qui fait des formations autour de l'entrepreneuriat. Eux, ils ont eu la capacité très tôt à mobiliser leur communauté parce qu'ils ont beaucoup misé sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça a été très rémunérateur pour eux sur le long terme. C'est qu'ils ont vraiment des gens qui les plébiscitent parce qu'ils ont une marque qui est forte et aussi peut-être plus sujet réglementaire. Ils sont positionnés assez tôt sur des certifications, ce qui fait qu'ils ont des actifs et qu'ils peuvent aller développer des parcours. Et ils font aussi beaucoup de publicité. Donc, ça, c'est un exemple d'un organisme qui fait aux alentours de 20 millions et qui, il y a 10 ans, n'existait pas, quoi. Enfin, s'ils existaient, mais sous une autre forme. En tout
D'accord.
cas, ça s'est très bien développé. Ouais.
Très très bien. Et tu penses que le marché est ouvert aujourd'hui?
Alors honnêtement, le marché, il est complexe en ce moment parce que je pense que les organismes de formation sont un petit peu frileux avec ce qui se passe sur la partie réglementaire, notamment sur le B2C avec le CPF, et tu as d'autres éléments sur l'alternance et compagnie. Par contre, le B2B avec les entreprises, bah, ça reste quand même un marché qui est à explorer, et encore une fois, avec un bon positionnement, on peut faire des miracles.
Et le B2C?
Le B2C reste pertinent, mais il faut très bien se positionner et peut-être plutôt sur du RNCP que du RS aujourd'hui pour avoir le CPF qui n'est pas plafonné, quoi.
Mais à la limite, et si on n'a pas, si on rentre pas dans l'administratif, si on n'est pas RNCP, etc., est-ce que, si on reprend l'exemple du bien-être, parce que ça touche tout le monde, évidemment, est-ce que c'est intéressant d'aller vers du B2C?
C'est quand même très concurrentiel, hein. Aujourd'hui, si je prends la thématique du bien-être, si je ne suis pas sur des financements et que je veux... Je sais pas, si je vends des formations aide spa, c'est les trucs à la mode, massage de la tête, et que je suis pas sur le CPF, aujourd'hui c'est le premier réflexe et la première question qu'ont les gens à la bouche, c'est est-ce que c'est CPF? Donc je serai quand même vigilant, et ça c'est la connaissance de son marché qui fait qu'on va se positionner ou pas sur une thématique, sur une verticale spécifique, mais il faut bien faire son analyse parce que sinon on risque de se prendre les pieds dans le tapis, quoi.
Et la politique de la longue traîne en se disant on constitue une communauté, et donc même si on n'a pas une grosse communauté, mais qu'elle est fortement engagée, évidemment sur des sujets différenciants, bien évidemment, dans ces cas-là, est-ce que tu trouves que c'est payant pour les organismes de formation?
Oui, c'est payant, mais dans la durée. Ça dépend de la capacité que tu as à survivre plusieurs mois, plusieurs années. Du coup, oui, ça a du sens, mais il faut aussi payer ses salariés et pouvoir se payer soi-même à la fin du mois. Sinon, on peut se mettre dans des situations complexes, quoi. Donc, plutôt actionner rapidement ce qui peut l'être, versus se dire je fais une stratégie de contenu sur long terme. Ouais, non, c'est peut-être pas ça qui va payer le plus tôt, quoi. C'est pertinent de le faire, hein, mais c'est pas 80% des revenus va pas venir de là dans les 3 prochains mois, quoi.
Et alors pour terminer, parce que souvent la formation reste majoritairement présentielle, est-ce que tu trouves que c'est intéressant quand on est sur du présentiel, est-ce que c'est facile d'aller sur une offre de service distancielle avec Zoom ou des choses comme ça qui sont assez simples comme support, est-ce qu'on peut faire des choses qui soient quali?
Oui, tout à fait. Bah, on l'a vu notamment à la période du Covid, il y a des organismes de formation qui se sont mis
Absolument.
en transition très rapide. Moi, à l'époque, je dirigeais en France un organisme de formation qui s'appelle Grosse Tribe. On est passé du présentiel au distanciel en 3 jours. On avait les supports pédagogiques, on faisait du synchrone, hein, sur le distanciel, et on est capable d'aller très vite. Après, évidemment, dans la durée, il faut adapter sa pédagogie. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, y aller de manière itérative et y aller petit pas par petit pas. Et pour pouvoir se dire, on ne fait pas des projets ultra complexes directs, on va digitaliser un module ou on va digitaliser un parcours de formation sur 2 jours, et pas partir sur des projets qui sont ultra complexes. Mais oui, ça a du sens et ça permet d'aller toucher un public qui est plus large, ça c'est sûr.
Donc, ce qui est le plus important, si je résume, c'est qu'au départ, c'est de se poser pour avoir un produit qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'on peut incarner, etc., et puis qui réponde à un besoin. Donc, finalement, c'est au départ stratégique
Tout à fait.
la clé. Donc,
Tout
c'est
à fait.
ça que je. Donc, chacun doit se poser, soit tout seul parce qu'il n'a pas d'amis, soit effectivement parce qu'il se retrouve dans des groupes, dans des gens qui discutent ensemble de ces mêmes sujets, des incubateurs. C'est intéressant ça, les incubateurs de formation. Il n'y en a pas beaucoup qui existent, mais il y a des incubateurs classiques où on discute avec les autres et voir leurs problématiques permettre de se positionner soi-même et de trouver ses spécificités, voire de trouver des associés aussi, ce qui est souvent un problème parce que souvent les organismes de formation sont tout seuls, mais ça permet à un moment de se dire qu'est-ce que je veux faire, j'en suis où et comment je veux me développer. À un moment, être capable de faire des parenthèses inattendues.
Tout à fait.
Tu conseilles ça, hein?
Ouais, tout à fait, ouais. J'ai travaillé en incubateur, donc c'est un sujet que j'affectionne particulièrement dans un incubateur qui s'appelle Fifty Partners, où j'étais analyste. Il y a vraiment de la pertinence que de se faire accompagner par des entrepreneurs et des experts plus expérimentés. Après, il faut bien choisir la structure dans laquelle on évolue, et aussi que ça prenne pas trop de temps versus son vrai job. Enfin, il y a des incubateurs qui prennent beaucoup trop de temps aux boîtes qu'ils accompagnent. Là, l'idée, c'est plutôt d'aller à l'essentiel, d'être efficace, d'aider les dirigeants. Et il y en a des très bons, bien sûr.
Exactement. Et de toute façon, quand on garde ces métriques et qu'on les a bien définies, on ne peut pas se perdre parce qu'on sait où on va.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, c'était passionnant. J'espère que ça vous a intéressé. C'est peu commun d'aborder ce sujet-là. Thomas Le Sénéchal a eu la gentillesse de nous présenter cette cartographie du business, du learning business, avec un regard particulier. Hein. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Hein. C'est complètement légitime. Si vous êtes d'accord aussi, n'hésitez pas à le dire, parce que il y a plein de belles choses et plein de conseils intéressants. En tout cas, c'était passionnant. Et puis, on verra si on aura l'occasion de renouveler l'expérience. En tout cas, merci beaucoup. Thomas Sénéchal, si on aime bien ce que tu fais, où c'est qu'on... comment te suis, comment te contacte?
Bien, écoutez, Thomas Le Sénéchal, donc LESENECHAL, et je suis présent notamment sur LinkedIn, et j'ai une société qui s'appelle Hyperforma, où j'accompagne des dirigeants d'organismes de formation pour les aider à développer leur croissance, grâce notamment à des stratégies d'acquisition et de conversion efficaces. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez développer votre croissance.
Exactement. Et ceux qui hésitent, ben, n'hésitez pas à lui dire ce que vous avez pensé de son émission, si vous avez aimé. Et dans ces cas-là, un DM permet justement d'accrocher, puis après discuter si vous avez des choses à vous dire. Merci beaucoup. Merci Thomas, Thomas le Sénéchal.
Merci.